La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Le soleil a tant fait l'amour avec la mer qu'ils ont fini par enfanter la Corse, disait Antoine de Saint-Exupéry. Alors partons-nous réchauffer les eaux sous le soleil corse chez une Belge du bout du monde, accrochée depuis une trentaine d'années là-bas dans le maquis, Martine Baldovini. Bonjour Martine.
Bonjour, bonjour à tous.
Est-ce que vous donnez raison à Saint-Exupéry, Martine ?
C'est un pays fantastique et on y est vraiment bien, la preuve, je ne suis pas repartie, voilà.
Depuis 33 ans, vous êtes en plein maquis, est-ce que vous acceptez de localiser votre position ou c'est top secret ?
Non, j'accepte de localiser, mais c'est vrai que c'est un petit coin perdu, donc nous sommes sur la côte est à 20 minutes de Ghisonaccia, donc 20 minutes de la mer, en mi-montagne à 400 mètres d'altitude, dans un petit coin perdu qui s'appelle Salastraco. Voilà, c'est un lieu dit. Et nous y vivons depuis donc l'époque de nos chèvres. Nous étions bergers.
Voilà. Ah, c'est beau. C'est un mythe, ça, partir faire du fromage de chèvre. J'en ai connu qui sont partis en Ardèche, mais vous, c'est carrément là-bas dans le maquis, près de la côte orientale corse. C'est vraiment une belle aventure qu'on va raconter jusqu'à 10h ce matin. Vous êtes à la tête d'une fromagerie et maintenant d'une maison d'hôte et même d'une cabane de Bondy. Ça promet. Pour nous offrir un double regard sur l'île de beauté, j'ai invité en studio un Corse du bout du monde. Et oui, ça existe. Bonjour Thibaut.
Bonjour. Bonjour à tutti. Bonjour Martine.
Bonjour Thibault.
Voilà, moi j'ai fait le chemin inverse.
Et vous venez aussi de la Corse du Sud ?
Oui, tout à fait, du côté de Sartène.
L'amour fait des miracles, parce que pour quitter la Corse, il faut vraiment de la motivation. Vous avez suivi votre femme qui est venue travailler en Belgique et vous en avez profité pour fonder, il y a peu, l'Île aux Corses, qui est un bar à vin avec spécialité corse et provençale. Francine Beretti, bonjour.
Bonjour.
Vous y êtes déjà passé, vous vous localisez un peu ?
Oui, je vois très bien où c'est dans le quartier. Je n'ai pas encore dégusté les produits, mais il faut dire que moi, je me fais fournir directement.
Oui, vous avez... Des ancêtres sur l'île Corse.
Oui, j'ai encore de la famille là-bas. Mon grand-père était corse, il vient de la région de Porto Vecchio, enfin l'arrière-pays plus exactement, la petite commune, le village s'appelle Gualdaric. Et voilà, je reçois encore de la charcuterie.
Très bien, vous êtes bien placé pour nous présenter alors l'île de vos ancêtres à vos côtés. Comme tous les dimanches, Mariam Allard et sa chronique d'Impact Journalisme. De quoi sera-t-il question ce matin, Mariam ?
Eh bien, je vais parler d'une jeune Corse qui a lancé son propre magazine, justement, qui parle des initiatives positives. Elle regroupe un petit peu tout ce qui est positif dans la région.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Pace et Salote, nous débarquons aujourd'hui sur votre île de beauté, Francine Beretti.
Oui, alors l'île de beauté, vous allez dire que je suis un peu chauvine, hein, mais oui. Franchement, tous ceux qui ont été, je pense, ne contesteront pas cette appellation. C'est une île relativement petite, hein, 8500 km², pour vous donner une idée, c'est trois fois plus petit que la Belgique. C'est beaucoup moins peuplé aussi, il y a environ 320 000 habitants. La Corse a appartenu longtemps à la République de Gênes, donc était liée plutôt à la culture italienne. En fait, elle a été cédée à la France au XVIIIe siècle. Et même si Gênes l'a cédée à la France voilà, de façon civile, il a fallu la conquérir militairement parce que les Corses n'étaient pas du tout d'accord. Il y a eu des insurrections. Il y a même eu une constitution qui a été déclarée à l'époque. Certains historiens estiment que c'est la première constitution démocratique qu'il y a eu. Elle était en Corse. Et d'ailleurs, au moment de la conquête militaire française, eh bien, les philosophes des Lumières se sont révoltés contre cette violence contre la population corse qui, donc, cette répression d'une nation démocratique.
Et la Corse devient donc française, mais aujourd'hui, elle a encore un statut particulier.
Ouais, alors, on ne va pas rentrer dans les détails administratifs, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, l'autonomie de la Corse est plus poussée que dans d'autres régions françaises. Et dans 2 ans, elle deviendra ce qu'on appelle une collectivité unique. Et puis, dans l'histoire toute récente, hein, c'est l'actualité du mois de décembre, ça, c'est, il y a vraiment peu, les indépendantistes ont gagné pour la première fois des élections, c'était les élections régionales. Et donc, c'est la première fois que ce courant politique accède à des responsabilités politiques qu'ils sont vraiment représentés voilà, au niveau d'une assemblée.
Est-ce qu'on parle corse en Corse ?
Alors, pas de façon massive. Il y aurait 100 000, 150 000 locuteurs. Ça dépend des estimations. Et d'ailleurs, pour certains linguistes, le corse n'est pas une langue. Alors, je rentrerai pas dans le débat. Ils disent que c'est un dialecte. Pour la petite anecdote, moi, mon grand-père qui parlait corse communiquait parfaitement avec les Italiens. Il se faisait parfaitement comprendre. Donc, c'est vraiment très, très proche. L'UNESCO considère que c'est en voie de disparition. Mais bon, comme beaucoup de langues et beaucoup de dialectes, finalement. Et en tout cas, depuis quelques années encore, il y a une politique d'incitation au Corse. Donc, dans les écoles, on l'enseigne à nouveau. On voit, quand on se promène dans le pays, il y a vraiment beaucoup d'inscriptions en Corse, sur les panneaux. Et les Corses sont vraiment très favorables, en général, disent les sondages, à cette défense de la langue qui fait partie de leur patrimoine.
Martine, vous allez confirmer, puisque vous êtes institutrice de formation. J'imagine que vos enfants sont allés à l'école en Corse ?
Oui, et ils ont eu cours de corse, mais je voulais ajouter que c'est une langue, pas pour moi et pour par exemple mon mari Xavier, donc qui est 100% corse, c'est une langue qui est surtout pour moi orale. Alors bon, il y a beaucoup qui l'écrivent, mais par exemple Xavier, mon époux, a dû beaucoup de mal à la lire et à l'écrire. Par contre, il la parle totalement couramment et quand il est dans sa famille, avec ses frères et ses sœurs, il parle cette langue. Je comprends très bien, mais je ne parle pas, je n'ose pas.
Si on reprend votre histoire au début, Martine, vous êtes partie rejoindre votre amoureux qui faisait du fromage de chèvre, mais c'était dans un autre coin de l'île, du côté de Solaro.
Tout à fait. Au départ, je suis arrivée simplement pour rejoindre mon compagnon belge, mon petit ami belge, qui avait des idéaux de vivre en Corse. On était un petit peu la génération babacool, hein. Voilà, et donc il était venu faire des chèvres ici avec un collègue allemand, donc c'était le berger belge et le berger allemand. Ils étaient installés sur Vivario, et puis ils se sont séparés, donc Olivier a cherché un autre endroit pour s'installer, et un jour il est arrivé en Belgique et il m'a dit cette question toute bête qui a fait basculer ma vie, est-ce que tu veux venir faire des chèvres avec moi en Corse ? Voilà. Et j'ai répondu oui, simplement parce que je me suis dit si je dis non, il va être triste, donc je dirai oui. Et j'ai dit oui, et voilà, j'ai fait basculer ma vie comme ça. Quelques mois plus tard, je quittais la Belgique et je laissais tomber mon métier d'institutrice, puisque je suis institutrice de formation.
Pour aller faire des chèvres en Corse, c'est beau ça.
Dans un endroit improbable, oui, ouais, tout à fait, sans électricité.
Ouais, ouais. Pas très loin de Solenzara ?
C'est ça, Solar. Mm-hmm. Solar, le village du soleil, très bien exposé. Nous avions donc trouvé une petite bergerie avec une piste en terre de 4-5 km et au bout, cette petite maison qu'on a réussi à avoir. On espérait avoir au début des baux, puis les baux ne sont pas arrivés, mais on s'est installé quand même. Et on a été berger là-bas pendant 7 ans. Donc, on a apporté un petit peu de confort, on a mis l'eau, puis on a mis un groupe électrogène pour avoir l'électricité, puis le téléphone. On a créé une petite fromagerie, on avait 150 chèvres, voilà. Notre couple a tenu 7 ans, donc, et après la naissance de mon premier fils, donc Sylvain, on s'est séparés. Et donc, très rapidement, j'ai rencontré mon beau berger corse, voilà, celui qui m'a fait découvrir la vraie Corse. Parce qu'avant, avec Olivier, je ne la connaissais que de l'extérieur. Une fois qu'on a rencontré quelqu'un de là-bas, ça change beaucoup.
Alors justement, les Corses ont la mentalité d'être un peu fermés, excusez-moi Thibault, insulaires, avec une certaine méfiance vis-à-vis de l'étranger. Comment est-ce que vous vous êtes fait accepter ? Est-ce que c'était facile de s'intégrer, Martine ?
Alors au départ, quand j'étais avec Olivier, mon compagnon belge, on avait des bonnes relations, on avait surtout des relations avec les chasseurs, donc le monde de la chasse, puisqu'ils venaient chasser chez nous. Et donc, des fois, ça créait des petits problèmes avec nos chèvres, évidemment, parce que ça leur faisait peur. Donc, ce n'était pas des mauvaises relations, mais ce n'était pas non plus des grandes relations d'amitié. Et puis, tout doucement, une fois que j'ai connu Xavier, là, mon regard a changé. Voilà, j'ai beaucoup mieux compris. Puis lui, c'est aussi un homme de la terre et c'est aussi un ancien berger. Donc là, mon regard s'est modifié et je ne suis pas d'accord avec cette analyse que les Corses ne sont pas accueillants. Non, ils sont très, très accueillants.
Vous faites bien de le dire.
Qui peuvent vous donner simplement pour le plaisir d'être avec vous. Je crois qu'on a une fausse idée à ce niveau-là de l'accueil en Corse.
Ouais, il faut briser les clichés. Et puis c'est très différent, quelqu'un comme vous qui vient pour vraiment vivre, plutôt que quelqu'un qui vient une semaine ou deux au mois d'août prendre sa part de soleil et puis se tirer. C'est très différent comme démarche. Vous, Thibault, vous êtes arrivé en Belgique 30 ans plus tard, hein, en 2012. Une belle façon d'être accueilli chez nous, dans cette ville cosmopolite, multiculturelle qu'est Bruxelles.
Oui, tout à fait. C'est justement ça, d'ailleurs, qui nous a attirés dans ce pays, dans cette ville, cet échange pluriculturel que l'on peut retrouver. Et c'est vrai que c'est ce qui manque un peu à la Corse, bien qu'il y ait maintenant une amicale des Belges à Ajaccio. C'est un grand pas en avant aussi pour nous de pouvoir dire qu'on s'ouvre. On est insulaire, mais on sait s'ouvrir aux autres aussi quand même.
Oui, la preuve jusqu'à 10h ce matin sur la première. On parlait de l'amour des Corses pour leur langue natale. Voici un beau duo entre un Wallon qui s'appelle William Dunker et des Corses Imouvrini. Je sème et je m'en vais.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde ? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
Quelle harmonie entre la voix de William Dunker en wallon et puis celle de Jean-François Bernardini en Corse. Je sème et je m'en vais. Vous l'avez compris, hein, nous sommes sur l'île de beauté ce matin avec Martine, Thibault et Franceline.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Les aventures de Martine en Corse. On avait le premier épisode en début d'émission à Solaro. Le deuxième épisode, c'est à Bandiola. Martine, ça se trouve où, Bandiola ?
C'est sur la commune de Pietroso.
D'accord.
Donc c'est un petit village de côte orientale, voilà.
On a mis en ligne les coordonnées de votre chèvrerie et puis de votre maison d'hôte aussi, hein, si on veut venir découvrir plus amplement la culture corse. L'agriculture aussi et l'élevage, ce sont des activités importantes au pays de votre grand-père, Franceline Beretti.
Bah oui, hein, l'agriculture en général, on en a un exemple ce matin puisqu'on a des échantillons des produits locaux, hein, de ce qui est produit sur place. Alors ça ne crée pas beaucoup de richesse, hein, au sens économique, cet élevage, mais c'est quand même très présent dans les paysages. Quand on se promène en Corse, on voit beaucoup des brebis, des chèvres, les fameux cochons sauvages près des routes qui attaquent presque les passants parce qu'ils recherchent à manger, en fait. C'est assez sympathique, toutes ces meutes. Et puis, il y a de façon un peu plus industrielle quand même, la plaine d'Aleria à l'est de la Corse, et, qui a été, je crois que c'était dans les années 70, où il y a eu une grande campagne voilà, de plantation. Donc on fait de la vigne, on fait des agrumes, on fait voilà, beaucoup de cultures de fruits. Et puis, en Corse, il y a aussi la châtaigne.
Ah oui, la confiture de châtaigne.
La
aussi.
Confiture, ouais. La farine et puis la bière, la pietra qui est faite à base de châtaigne qui est très bonne.
Oui, alors je tiens à préciser que ce matin on déguste, mais pas la pietra, il est un peu trop tôt ce dimanche matin. Thibault a essayé de nous amener des vins corses, mais on s'est dit non, pas avant la fin de l'émission,
voilà,
peut-être tout à l'heure, à l'heure de la messe éventuellement. Par contre, on a craqué quand même pour le saucisson qui est avec du poivre, avec ces fameux cochons sauvages, des cochons un peu noirs qui donnent cette viande, Thibault.
Voilà, tout à fait. Alors là, on a trois salaisons différentes. On a la coppa qui est assez connue parce qu'on en retrouve un peu aussi en Italie, qui est en fait l'échine du cochon, hein, une partie de l'échine. Et vous avez le lonzo. Le lonzo, c'est le filet, en fait, une charcuterie un petit peu plus sèche, toujours séchée dans le poivre, et le saucisson traditionnel, le cochon sauvage. Voilà.
Que l'on sert dans votre resto L'île aux Corses à Bruxelles. On a mis des photos, hein, pour vous faire baver un peu sur la page Facebook des Belges du bout du monde. Il y a aussi de l'industrie, mais peu, je crois, en Corse.
Oui, très peu. Hein. C'est vraiment un secteur qui n'est pas tellement présent. D'ailleurs, la Corse est une région relativement pauvre, hein, par rapport au reste des régions françaises qui ne produit pas tellement de richesses. Puis la population est vieillissante. En fait, le premier employeur de l'île, eh ben, c'est le public, hein, que ce soit l'État, la fonction publique nationale ou bien régionale. Et le tourisme aussi en saison. Hein. Pas mal de Corses ont d'ailleurs un emploi saisonnier, un l'été, ou quand commence la saison touristique, et puis un autre l'hiver pour compléter l'année.
C'est un peu votre cas, Martine. Vous avez une activité avec le fromage et l'autre avec le tourisme. Au niveau du fromage...
Alors, en fait, tout à fait, on a créé... Donc au départ, on était bergers, mais je précise que nous ne sommes plus bergers. Nous sommes devenus artisans fromagers. Ça veut dire que la production de lait, ben, ce n'est plus nous qui l'assurons. Ce sont les bergers qui nous vendent le lait avec lequel nous produisons les fromages. Et cette entreprise existe depuis 1990 et je pense que le secteur artisanal quand même en Corse se porte pas trop mal, ce qui est notre cas. On va pas faire du pessimisme, moi je suis plutôt positive et je me dis que dans le petit coin de maquis où nous sommes, arriver à vivre et travailler avec trois salariés depuis déjà 25 ans, ben c'est pas si mal que ça. Et c'est bien la preuve que même en Corse, on peut réussir sans problème.
Oui, voilà. Quand on y croit et qu'on a le feu sacré, bravo Martine. Donnez-nous en peut-être quelques mots le cycle de fabrication de votre fromage corse. Ça commence, vous l'avez dit, par le lait qui est collecté chaque jour chez les éleveurs de la région. Et puis, il y a la fabrication proprement dite avec le salage, l'égouttage, l'affinage.
Tout à fait. Ça commence par la collecte des bergers qui se fait la veille de la transformation. Donc, nous faisons la tournée chez nos bergers. Bien sûr, la chaîne du froid est respectée. Il faut savoir qu'en Corse, le lait est payé à la qualité. Donc, ça veut dire que nous faisons des analyses pour suivre la qualité du lait que nous achetons. Ensuite, il est stocké chez nous donc, jusqu'au lendemain matin. Et à 7 heures du matin, la production commence. Donc, c'est Xavier, mon mari et son équipe donc de deux salariés qui assurent cette production. Voilà, donc ça va de la chauffe du lait, l'emprésurage, le moulage des fromages. Nous avons plusieurs sortes de fromages. Ensuite, il y a l'égouttage, le salage et l'affinage qui est fait directement chez nous. Ce qui est intéressant chez nous, c'est que nous sommes une petite entreprise qui faisons la production de A à Z. C'est-à-dire que la matière brute arrive, c'est le lait, et le produit fini sort, il est emballé, gène codé, et il peut être livré dans les supermarchés de Corse, dans les produits Corse, ou même également sur Rungis.
Oui, voilà. Oui, et ça arrive peut-être à l'île aux Corse à Bruxelles, parce que vous faites du brochu.
Nous faisons du broch, appellation d'origine donc AOP, bien sûr, avec notre lait. Et j'ai vu sur la page Facebook de l'île aux Corse un brooch qui avait l'air bien sympathique.
Oui, c'est un brooch au frais. Oui, on est en pleine saison, donc il faut en profiter.
Voilà, tout à fait. Le brooch est un produit qui est allégé naturellement puisqu'il est fait avec du petit lait dans lequel on rajoute 10 à 15% de lait entier. Donc, c'est un fromage qui se consomme nature, simplement avec du sucre ou de la confiture. Et puis, bien sûr, énormément en cuisine. Je crois d'ailleurs que vous avez déjà goûté des petits cannelloni au brooch.
Oui,
je me trompe.
Je confirme. Délicieux, préparé par des Belges, Dominique Herzé, qui a une maison d'hôte à Campo. Sur les hauteurs et elle fait un délicieux cannelloni au brooch, c'est excellent. Vous avez des vins corses que vous conseilleriez avec ce type de plat, avec ce type de fromage, Thibaut ?
Alors sur un fromage de brebis un peu plus affiné que le brooch, parce que sur le brooch, le vin, ça peut masquer un peu, mais sur des fromages un peu plus affinés, vous pouvez marier ça soit avec un rouge, avec un petit peu de corps, comme un patrimoine, sans donner de nom en particulier, ou aller carrément sur autre chose, une autre découverte, c'est tout simplement de marier avec un muscat du Cap, donc un vin un petit peu plus sucré.
Du Cap Corse alors.
Voilà, tout ouais, à fait, un muscat du Cap Corse. Ouais. Et là, c'est un bon équilibre, c'est un jeu salé-sucré, c'est des saveurs différentes.
Mais ça me fait penser au proverbe corse qui dit « Celui qui ne boit que de l'eau finit par avoir des grenouilles dans le ventre ». c'est pas pour pousser à la consommation, c'est juste le clin d'œil. Martine, vous avez diversifié vos activités. Il y a la fromagerie, mais il y a aussi une cassetta. C'est quoi une cassetta ?
Une casetta, c'est une petite maison, en fait, hein, puisque la casa, c'est la maison, casetta, c'est petite maison. Donc, en fait, c'est une cabane. Donc, en Corse, il n'y en avait pas beaucoup. Et moi, j'avais craqué sur le concept des cabanes en allant d'ailleurs en Belgique et en achetant un livre. J'avais ramené ça ici. Et voilà, donc on a commencé une petite activité touristique qui est très complémentaire de la production fromagère, puisque nous recevons donc aussi en vente directe les touristes sur le site de la fromagerie. Nous sommes dans le guide du routard et donc nous faisons des dégustations. Naturellement, des personnes nous ont demandé « est-ce qu'on peut dormir ? Est-ce qu'on peut vous loger ?» Et voilà, donc cette petite cabane est une petite maisonnette en bois sur pilotis au bord d'une rivière, donc elle a énormément de charme. Et je l'ai appelée la cabane du bandit. J'ai fantasmé un petit peu sur nos bandits corses. Et elle a énormément, elle plaît beaucoup et elle est même souvent les week-ends d'hiver, elle est complète, quoi. Voilà. Elle est pas grande, hein. Elle accueille que 4 personnes. C'est pas grand chose. Mais je fais le petit déjeuner, je les reçois, je les coucoune, ils ont un jacuzzi, voilà. Et surtout, je les fais rêver un petit peu.
Avec une piscine naturelle. Allez-y, on a mis les images en ligne sur lapremière.be et sur la page Facebook des Belges du bout du monde, à Casetta di U Bandito. C'est à peu près comme ça qu'on le prononce en Corse ?
C'est ça, oui. Casetta. Vous insistez un petit peu trop sur les voyelles, mais
voilà. Casetta di Bandito.
Casetta di Bandito. Je devrais prendre appeler Brucia pour mieux le prononcer. Merci en tout cas, on en reparle si vous le voulez bien sur la première après la pub. Ne bougez pas.
9h-10h sur la première.
Les Belges du bout du monde.
Avec Adrien Jovenot.
Merci d'écouter la première ce dimanche matin à 10h. Ce seront les décodeurs avec Alain Gerlache. Mais d'ici là, nous sommes en Corse chez Martine Baldovini.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Martine, qui est notre Belge du bout du monde, Baldovini, c'est aussi le nom de la fromagerie, c'est le nom de votre mari, Corse, Xavier, hein Martine ?
C'est ça, Xavier, oui.
Et la fromagerie, avec aussi la maison d'hôte, la cabane insolite, qui est dans le guide du routard, la Casetta di U Banditi. C'est aussi nourri de romans, d'inspiration un peu policière. Il y a tout le mythe corse qui tourne autour de votre cabane.
C'est une façon, donc quand les gens viennent dans cette petite cabane, eh ben, ils vont fouiller dans les bouquins que j'ai laissés, où il y a plein d'histoires de bandits, et donc les enfants adorent en général. Et puis j'ai aussi décoré avec quelques vieux vêtements que le bandit a oubliés dans sa cabane, et donc ça fait un petit peu un effet sur les enfants, ouais. Ça plaît beaucoup.
Ouais. Voilà. Alors, à propos de lecture, on va se pencher, Maria Mallard, sur un magazine créé en Corse par une jeune femme.
Oui, et pas n'importe lequel, c'est un trimestriel qui s'appelle Bouge ta Corse. Et la jeune fille qui s'appelle Céline Robillard s'intéresse à l'actualité positive. Elle est de ceux qui veulent faire avancer leur cause. Son idée, elle la tient d'un constat simple. Pour elle, il y a un manque clair de communication en ce qui concerne les événements, les associations et les entreprises en Corse.
Eh bien, Maria, ça me semble familier cette idée. Comment s'y prend-elle alors ?
Oui, en effet, comme pour cette chronique, il y a vraiment une tendance générale à vouloir parler d'histoires positives, principalement pour contrebalancer le poids de l'actualité parfois très lourde. Ici, elle souhaite que le magazine soit un outil au service des énergies positives. Il aborde des thématiques comme l'économie sociale et solidaire, le développement durable et l'éco-citoyenneté. Le but est que l'information positive soit accessible à tous. La jeune Corse souhaite sensibiliser le public à ce genre d'initiatives, mais aussi les promouvoir.
Alors, il faut financer tout ça. Comment est-ce qu'elle y arrive ?
Eh bien, elle espère s'autofinancer grâce aux ventes du magazine et elle fonctionne aussi par le crowdfunding et les plateformes de financement participatif. Pour l'instant, cela marche très bien et pour réussir à vendre son magazine, elle mise sur la langue corse, comme on en parlait tout à l'heure, et les articles bilingues. À terme, les responsables espèrent pouvoir proposer des emplois solidaires en offrant 50% de commission sur chaque vente du magazine.
Alors, c'est beaucoup d'ambition pour un début, mais souhaite-t-il faire encore plus et s'étendre ?
Ben, pour l'instant, leur zone d'action, c'est la Corse et il faut dire que se lancer dans ce genre de projet, c'est plutôt périlleux. Pour l'instant, ils se concentrent sur la Corse et espèrent faire mûrir le projet. Et ça a l'air bien parti puisque l'on parle d'eux dans la presse, mais aussi par le bouche à oreille.
En tout cas, chapeau Mariam, parce que dégoté comme ça, ce magazine, moi j'en avais jamais entendu parler. Vous connaissiez Thibault ?
Non, il y en a un qui est très connu sur l'île, c'est Parole de Corse, qui est un petit peu plus généraliste sans doute. C'est une bonne initiative là, celui que vous dites.
Bouge ta Corse, c'est très chouette, c'est très positif et ça fait beaucoup de bien aux petites entreprises justement comme la nôtre.
Oui, voilà. Et ça casse aussi les images parfois négatives qu'on a sur la Corse, ça montre ce qui fonctionne.
Fait, oui.
Comme votre fromagerie, la fromagerie Baldovini, votre cabane, votre maison d'hôte, les réseaux sociaux ça fonctionne pour votre fromagerie, vous faites aussi appel.
Oui, tout à fait, ouais. On a notre page Facebook pour la fromagerie et pour la cabane. Puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes informations, on partage. Et les gens aiment bien nous suivre parce qu'on raconte aussi la vie d'une petite entreprise avec ses aléas, ses problèmes d'Internet, ses problèmes d'électricité, les jours de vent, etc. En Corse, il faut savoir que les intempéries sont souvent, on les vit très fort et de façon très compliquée. La communication est difficile, les transports sont difficiles aussi. Pour expédier les fromages, il faut savoir que ça coûte cher et que donc pour être présent sous Rungis comme nous le sommes, eh bien, il faut sacrifier donc souvent des coûts élevés de transport. On aimerait bien travailler avec la Belgique. Je dois dire que j'espère un jour y arriver. Voilà.
On essaiera ensemble en tout cas.
Ouais. Ah,
Thibault, toujours le même problème, c'est le coût du transport.
Mais maintenant qu'il y a des lignes directes entre l'aéroport de Liège et la Corse, ça devrait peut-être vous aider pour écouler votre production au Royaume de Belgique. Vous avez fait aussi appel au crowdfunding ou alors au woofing, ces nouvelles formes de participation, Martine ?
Non, on n'a jamais essayé. Des fois, je soutiens, moi, quelques petits projets, puisque maintenant, nous sommes en capacité, des fois, de soutenir des projets. Et c'est bien nous investir, mais nous-mêmes, nous avons bénéficié d'aide, mais c'était la bonne époque de l'Europe. Et donc, quand on s'est mis aux normes européennes, on a eu la chance d'avoir des subventions pour transformer nos ateliers, notre chèvrerie, pour qu'elle devienne une fromagerie aux normes européennes. Et donc, c'est plutôt par ce biais-là que nous y sommes arrivés. Mmh. Voilà.
Nous sommes le 28 février, l'hiver se termine doucement. Est-ce qu'il a été rigoureux en Corse? Est-ce que vous avez dû parfois faire fonctionner le chasse-neige là, sur vos hauteurs, sur vos montagnes?
Hiver extrêmement doux, avec beaucoup de vent, donc pas de froid, non. À peine, on n'a pas eu de neige. Sur Gisonne, il y a une petite station de ski qui, cette année, malheureusement, a été à peine saupoudrée de neige. Donc, voilà. Non, je pense qu'il y a vraiment un changement climatique qui se fait. Et quand on regarde les photos d'il y a 10-15 ans, on voit nos enfants jouer dans la neige pendant une semaine, parfois. Ben, ça a fort changé. Ça s'est très fort adouci.
Thibaut, quand vous étiez gamin en Corse, vous aviez des hivers enneigés, vous vous souvenez de ça?
Oui, oui, tout à fait. Les hivers 83-84 étaient très, très enneigés. C'était des périodes, des vrais hivers hein, qu'on a plus maintenant.
Quels sont vos endroits coup de cœur sur l'île natale, Thibaut?
Alors, mon origine du sud va forcément vous orienter vers des plages ou vers des paysages montagneux du sud. Après, je vous dirais, il y a tellement d'endroits différents en Corse qui peuvent plaire à chacun, puisque vous avez la montagne et la mer qui se côtoient vraiment à très peu de kilomètres. Voilà. Si j'avais un petit coup de cœur à vous dire aujourd'hui, ce serait pourquoi pas une plage du côté de Rocapine. Qui est...
Bon, moi, je suis moins pour qu'on prône Porto Vecchio et ses environs, parce que c'est justement là où tous les touristes vont. Et moi, je suis plus pour développer et pour faire connaître l'intérieur de la Corse, où en général, l'accueil est extrêmement chaleureux, parce que bon, on a moins de touristes, nous. Donc, les quelques-uns qui veulent bien se donner la peine de pointer le bout de leur nez dans notre petite montagne, eh bien, nous, on est très flattés qu'ils viennent. Et donc, je suis plus à faire connaître la plaine orientale, qui est ma région, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui a une bonne activité agricole, qui est la seule grande plaine de Corse. Hein, et donc, à l'intérieur de ces villages, il y a plein de balades à faire, de randonnées, de rivières merveilleuses pour se baigner. Voilà.
Vers les aiguilles de Bavella, entre autres, hein, qui culminent à 1800 mètres d'altitude. Il y a des choses magnifiques à voir à l'intérieur des terres. Hein, n'hésitez pas. Et puis, votre ville natale, hein, Sartène, elle est très belle aussi, Thibaut.
Oui, alors bon, voilà. Hein, comme disait Martine, il y a différents endroits qui sont à noter. Sartène fait partie des villes encore petite à l'échelle, très accessible et qui a gardé son authenticité. Après, vous pouvez le retrouver ça à d'autres endroits. Et voilà, la Corse, c'est pas seulement des plages, c'est aussi des montagnes, c'est aussi un paysage varié, des routes qui traversent le maquis, des senteurs, voilà.
C'est vrai que je confirme ce que dit Thibaut, hein. La Corse, pour moi, c'est surtout la montagne. Hein. Enfin, moi, ma famille venait pas très loin de Bavel, justement, que vous avez cité, des aiguilles de Bavel. Et puis, aujourd'hui, l'activité se fait plus sur le littoral, mais c'est vrai que ça vaut vraiment le coup de quitter la mer quelques heures et d'aller se balader dans les montagnes.
Oui, le printemps va arriver. C'est une bonne saison aussi, Martine, pour découvrir la Corse.
C'est une saison fantastique à cause de la floraison. Voilà, donc nous avons un maquis qui, au printemps, est merveilleux. Donc, ça commence en général au mois d'avril. Et bon, après, le mois de juin, quand il commence à être plus sec, bon, ça prend un peu plus un aspect brûlé. Et c'est pour ça que moi, je trouve que avril, mai, jusque mi-juin sont les plus beaux mois en Corse. Après, l'automne aussi est très beau. Septembre est un mois très sympa. Il fait beaucoup moins chaud et il y a de nouveau une nouvelle floraison qui se fait. On l'appelle le deuxième printemps. Voilà, avec d'autres plantes à regarder. Il y a maintenant beaucoup de cultures d'huile essentielle en Corse, donc à découvrir. Prenez le temps d'aller chez les petits producteurs qui font des huiles essentielles et apprenez à les découvrir, à les connaître. Donc la fameuse immortelle de Corse, hein, qui est très connue.
Vous parlez du mois de septembre. Allez, on fait un petit coup de pouce et un petit coup de pub à nos amis du We Fly Away Festival, un festival de rock belge qui aura lieu là-bas à Carriese à partir du 18 septembre. Toutes les infos sont en ligne sur lapremière.be, l'occasion de passer vos vacances aux côtés de Noah Moon ou de Charcot. On écoute tout de suite un autre musicien qui vit en Corse, lui, depuis belle lurette. C'est Jacques Dutronc sur La Première.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Jacques Dutronc, comme Yves Duteil, comme Michel Fugain, comme beaucoup d'autres artistes français, a élu domicile en Corse. On l'écoutait ici dans L'Aventurier. L'aventurière ce matin, c'est Martine Baldovini qui a créé une fromagerie, une maison d'hôte, une cabane de bandit en Corse. Elle est sur la première jusqu'à 10h.
Les Belges du bout du monde, Adrien Jouvenot.
Les Corses ont le cœur brûlant. Pour sentir la vie, ils ont besoin d'aimer ou de haïr avec passion, écrivait Stendhal. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine ?
Ah oui, c'est très vrai. C'est vrai qu'ici, tous les événements prennent des dimensions un peu exacerbées. Mais je crois que c'est le mode de fonctionnement des gens d'ici. Et donc, ce côté passionnel, qui a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr, est très attachant.
Bon, il y a la haine corse, bien connue, mais l'amour corse est encore plus fort que la haine.
C'est vrai, oui, je crois qu'il faut sortir un petit peu des carcans, il faut aller à la rencontre des gens. Et en général, moi je vois avec les touristes que je reçois, souvent ils me disent mais on est bien accueillis hein, ici, comme les gens ils sont gentils, voilà.
Quelle belle déclaration d'amour. Alors, vous vous souvenez sans doute du film grand public tourné en Corse, hein, pas très loin de chez vous, L'Enquête Corse. On en écoute un extrait, puis je vous demanderai de réagir à ce cliché.
Je suis fatigué de la Corse, mais fatigué.
Qu'est-ce que vous foutez là en pleine journée ? Et qu'est-ce que tu maquilles avec ce passe-montagne, le piaf ?
Non, en fait, c'est la cagoule de mon neveu. La mienne, elle a rétréci au lavage, elle est devenue trop petite.
Avec Jean Reno, entre autres, la paresse dont on parle, la fatigue, etc., c'est tout à fait cliché, Martine, hein, parce que les Corses, ils travaillent dur hein, pour s'en sortir.
À 100%, tout à fait. Mais par contre, l'humour se développe ici. On a des humoristes et je pense que c'était peut-être ce qu'il fallait faire, c'est apprendre à rire de nous-mêmes, parce que je peux parler nous, ça fait quand même maintenant assez longtemps que je suis là. Apprendre à rire un petit peu de nos petits travers et de ce petit côté un petit peu exacerbé toujours du cœur. C'est vrai que la Corse vous prend à la tripe. Quand vous vous posez sur la terre corse, quand je rentre de voyage et que je descends de l'avion, il n'y a rien à faire, il y a quelque chose qui se serre en moi, il y a cette espèce de passion qui est là. Et je crois que tout le monde va le sentir le jour où il va poser son pied sur ce pays, à découvrir vraiment.
À découvrir à la montagne, à la mer ou sous l'eau. Moi, je pousse un petit coup de cœur pour la pointe de la Revelata où des Belges sont installés. C'est la base Starezo, un endroit magnifique. On a mis d'ailleurs sur la page Facebook des Belges du bout du monde un petit clip réalisé là-bas pour la version télé de notre émission Les Belges du bout du monde. Vous retournez régulièrement en Corse, Thibault, vous qui vivez à Bruxelles depuis 4 ans maintenant.
Oui, autant que possible, je retourne voir la famille et retrouver les racines. Voilà, il faut garder ce lien et c'est très important pour nous aussi de se rassembler, hein, parce qu'on se retrouve à l'autre bout du monde. On essaye de faire des amicales des Corses un peu partout et c'est vrai qu'après, c'est bien de se retrouver aussi chez soi.
Moi, mes liens avec la Belgique sont restés très forts aussi et surtout, je pense maintenant, à 50 ans, je suis plus à vouloir rentrer de temps en temps chez moi. Les liens sont redevenus plus importants avec le reste de ma famille. À 20 ans, on part un peu sans se retourner et ça n'a pas l'air très important. C'est plus tard, quand les années passent, qu'on retrouve cette importance. Je suis très fière d'être belge aussi.
Ouais, c'est voilà. Ça fait plaisir de vous entendre parler comme ça. Vos loisirs en Corse, parce que j'imagine que dans la fromagerie, on travaille beaucoup, on se lève tôt le matin, mais de temps en temps, il y a moins de fromage à faire, hein, ça dépend des saisons. Vous avez l'occasion de faire autre chose ?
Oui, très peu, mais on essaye quand même. Bon, mais déjà, il y a tout ce qui est... Bon, moi, je pratique le footing. Hein, et c'est vrai qu'ici, l'avantage, c'est qu'il suffit de mettre ses baskets. On est dehors de suite. Donc après, on a des chevaux. Donc Xavier est cavalier, il adore ça. Donc, et puis la moto, tous les deux, on a une Harley. Et ça, je crois que c'est le plaisir qu'on a vraiment tous les deux. C'est de monter sur la moto. Faire de la moto en Corse, c'est super. D'ailleurs, au mois d'avril, mai, juin, on a énormément de motos qui viennent. Parce que bon, ben, l'espace extérieur à moto, vous en profitez à 100%. Vous pouvez rouler tranquille sur des petites routes. Et je propose d'ailleurs à mes clients des petites balades hors des sentiers battus sur des petites routes perdues où on a la paix, où on peut prendre le temps de s'arrêter. Voilà.
Ah, je crois que Thibaut va reprendre contact avec vous parce que même ce matin, il est venu à la RTBF à Reyers à moto. C'est pas d'embouteillage. On passe partout, hein, dans les grandes villes ou sur les petits chemins de campagne. Le deux roues, c'est sympa.
Oui, alors c'est sûr. On a au moins cet avantage sur Bruxelles de pouvoir se déplacer rapidement. Après, il est vrai qu'en Corse, ce serait tout autre chose. C'est plus pour découvrir la Corse de deux manières. Déjà, un avec le regard, ça, on l'a tous. Et puis, le fait d'être en deux roues, on a tout le côté olfactif qui va se développer puisqu'on va traverser différents endroits.
Épinède,
Et vous allez avoir toutes ces senteurs, le maquis qui va se mélanger à l'iode, tout. Et voilà, c'est tout ça la Corse. Voilà, il faut pas hésiter à faire la Corse en deux roues, à vélo. Bon, c'est un petit peu difficile, mais en moto, en scooter.
On en a qui le font à vélo de plusieurs jours avec l'équipement complet et la tente sur le vélo. Et c'est vrai que c'est de plus en plus. Hein.
À vélo ou à moto, on embrasse l'air sur la bouche.
Et à pied aussi.
Et ça fait du bien. À pied aussi. Bah, par exemple, sur le GR20, ça, c'est à recommander.
Voilà, le fameux.
Ouais.
Le
fameux. Pour les randonneurs. Faut y aller à Pâques, surtout chez vous, le Vendredi Saint, Thibaut, il se passe des choses à Sartène.
Alors, à Sartène, c'est traditionnel, hein, on a le Catenaccio, mais il faut savoir qu'il n'est pas seulement à Sartène, hein, il est dans d'autres villes de Corse.
Quels sont les défis pour la Corse dans les semaines, les mois, les années à venir, Franceline?
Alors, on avait parlé de la Sardaigne, Adrien, vous vous en souvenez, hein, c'était il y a quelques émissions. La situation en Corse est un peu comparable, c'est-à-dire que c'est une population vieillissante, que sur place, il n'y a pas tellement d'emplois. Il y a beaucoup de jeunes qui doivent quitter la Corse. Ils vont sur le continent, comme on dit là-bas, pour travailler.
Ou sur Bruxelles,
voilà, ou encore un petit peu plus loin. Et donc, clairement, le développement économique est au cœur des enjeux de l'île, tout en respectant l'environnement, cette nature exceptionnelle. Hein, parce que c'est vrai que ces 10-15 dernières années, on a vu beaucoup le secteur touristique se développer, avec parfois le littoral qui en pâtit, hein, avec beaucoup de constructions. Et bien, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les indépendantistes ont gagné les dernières élections régionales au mois de décembre. Et là, ça va être intéressant de voir comment ils vont s'emparer de ces problématiques, de voir s'ils vont réussir à donner une nouvelle impulsion à l'île.
Oui, vous allez suivre tout ça, évidemment, en direct sur place, Martine Baldovini.
C'est vrai que la politique ici, c'est compliqué, mais je suis très contente, moi aussi, d'avoir vu les nationalistes, je dirais bien, mais plutôt modérés, à arriver au pouvoir. Et je pense qu'il y a... Il y a un mouvement de souhait de que les choses changent en profondeur dans notre île et le clientélisme, les Corses n'en veulent plus et ne supportent plus. Voilà. Il y a eu trop d'affaires, trop de nos hommes politiques impliqués dans des affaires et dans des détournements de fonds et autres. Et donc, voilà, ce jeune nationaliste, Simeone, il est, voilà, nous fondons beaucoup d'espoir en lui et il est déjà au travail et les choses bougent. Hein.
Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. On va bientôt pouvoir déguster toutes les charcuteries, les fromages amenés par notre Corse du bout de la Belgique, Thibaut. On rappelle, l'île aux Corses, ça se trouve à Bruxelles, à XL.
Oui, tout à fait, près de la place Fernand Coq.
En tout cas, je viendrai goûter sa cuisine. D'ailleurs, ma sœur l'a déjà proposé, elle a dit la prochaine fois que tu viens, on va à XL. Et on va manger là-bas.
C'est gentil, c'est gentil. Mais on se parlera hors antenne parce que je voudrais quand même goûter votre fromage.
Ouais, et peut-être
d'accord.
Le servir dans votre restaurant.
Tout à fait.
Ouais, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien jeter des liens comme ça, créer des collaborations entre les Belges partis au bout du monde et ceux qui viennent du bout du monde, qui vivent chez nous. Merci, Maria Mallard.
Merci.
Bonnes vacances en Corse.
Oui.
Bon retour aussi, Franceline.
À bientôt.
Et nous, la semaine prochaine, nous serons en Californie chez Cédric Godard. Bonjour, Alain Gerlach.
Bonjour, Adrien. Bonjour à tous.
Je crois que vous connaissez bien Cédric.
Très bien. On a travaillé ensemble. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est technologique et aux évolutions des médias.
On en parlera aussi après juin le 10h dans les décodeurs aujourd'hui.
La transition est faite, on va parler de réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de monde 3D dans lequel on peut interagir avec l'environnement autour de nous. Il y a plein d'applications possibles, depuis la médecine jusqu'au cinéma, le divertissement, les médias, c'est fascinant. On va en parler, ce sera juste après 10h.
Merci Alain, bonne émission à vous et excellent dimanche à toutes et à tous.
La première, podcast.